Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, notre invitée a cette particularité de côtoyer des êtres vivants capables de vivre à des températures dépassant 100 degrés. Ces êtres vivants ne sont autres que des microbes d'un genre très particulier dont nous vous proposons de faire la connaissance. Alors comment les a-t-on découverts? Comment font-ils pour vivre et se développer, s'épanouir à de telles températures? Que nous apprennent-ils sur l'origine de la vie? À quoi peuvent-ils nous servir? Cette émission vous propose des éléments de réponse avec Patrick Forter. Patrick Forter, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous au studio de Canal Académie. Vous êtes professeur à l'Université Paris Sud et responsable de l'équipe de recherche biologie moléculaire du gène chez les extrémophiles à l'Institut de génétique et microbiologie d'Orsay et à l'Institut Pasteur de Paris. Un titre long, mais peut-être que vous nous en direz un peu plus. Et donc également associé au CNRS et à l'Université Paris Sud. Peut-être que vous nous détaillerez un peu plus vos fonctions. Vous venez de publier en 2007 « Les microbes de l'enfer » aux éditions Belin, collection pour la science. Et vous avez présenté l'objet de vos travaux lors d'une séance de l'Académie des sciences, c'était en janvier 2008. Peut-être pourrions-nous commencer par un petit point d'histoire qui est d'ailleurs le début de votre livre. Nous parlerons peut-être pas forcément du microbe, pourquoi nous les appelons microbes. Et encore, peut-être que vous pourrez nous dire quelques mots sur ce terme de microbe. Auparavant, dans les années 60-70, le règne du vivant était classé encore en deux catégories avant d'être classé en trois. Alors, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point d'histoire là-dessus?
Oui, tout à fait. Donc, les microbes, c'est vrai que c'était un terme un peu grand public. Les scientifiques, ces dernières années, parlaient plutôt de micro-organismes. Ou bien, si on allait un peu plus loin, on distinguait d'un côté les micro-organismes prokaryotes, les cellules sans noyau, souvent on pensait toujours aux bactéries, et puis les eucaryotes, les cellules avec des noyaux. Alors, on avait les eucaryotes inférieurs, les microbes comme les levures, les champignons, les algues, et puis les eucaryotes supérieurs, c'est-à-dire les plantes, les animaux et nous-mêmes. C'est une vision très anthropomorphiste de la chose. Aujourd'hui, on n'hésite pas à revenir au terme microbe. En partie, je pense que comme c'est un terme qui est grand public, il permet d'alerter justement ce grand public sur l'importance de ces êtres vivants qui ont été largement sous-estimés. On les considère souvent en tant que responsables de pathologies, de maladies, hein, le microbe de la peste, etc. Et en fait, on sait qu'aujourd'hui, qu'ils ont un rôle tout à fait essentiel dans la biosphère. Mais on y reviendra un peu plus en détail peut-être tout à l'heure.
Alors, dans les années 70, donc nous avions les eucaryotes, les bactéries, et puis arrivent, grâce à ces fameux microbes de l'enfer dont nous allons parler au cours de cette émission, arrive la troisième catégorie qui sont les archées.
Les archées, ça c'est une des grandes découvertes du XXe siècle qui est passée relativement inaperçue. C'est dommage, en fait, le chercheur américain qui est à l'origine de cette découverte n'a pas reçu le prix Nobel, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel pour les travaux d'évolution ou de biodiversité d'écologie. Il a reçu le prix Crawford en 2003, des mains du roi de Suède. C'est un prix très prestigieux. Il a obtenu ce prix pour cette découverte, donc qui a en fait ouvert la voie à une nouvelle classification du monde vivant, qui a été élaborée par ce chercheur en 1977, si on veut être précis, qui a été relativement rapidement adoptée par un petit groupe de biologistes qui ont été au courant de cette découverte et qui progressivement s'est imposée donc dans la communauté scientifique. Cette distinction en trois grands groupes n'est pas encore acceptée par tout le monde, mais disons aujourd'hui elle est reprise par la plupart des spécialistes, et donc elle a été adoubée, on peut dire, par le roi de Suède.
Ah, c'est un élément que je n'avais pas. Je ne savais pas que pour le moment, les règnes vivants en trois catégories n'étaient pas encore validés par tous les scientifiques.
Les classifications ont toujours beaucoup bougé, elles bougeront encore. On avait une classification en cinq groupes qui était très célèbre pendant une période, la classification de Whittaker, où on avait les plantes, les animaux, les champignons, les protistes et les bactéries. Ensuite, on a eu la division dont je parlais tout à l'heure, prokaryote-eucaryote, qui était basée sur des observations en microscopie électronique. Lorsqu'on a pu voir des cellules en microscopie électronique, effectivement, on a bien vu que dans certaines cellules, le matériel génétique était stocké à l'intérieur d'une structure qu'on appelait le noyau, avec une membrane nucléaire. Et dans d'autres types de cellules, c'était les bactéries à l'époque essentiellement, on voyait que le matériel génétique était directement au contact du reste des composants de la cellule, de ce qu'on appelle le cytoplasme. Et donc, on avait, sur cette base du type cellulaire, diviser le monde vivant en deux grands groupes. Donc, on avait les bactéries d'un côté, qu'on appelait prokaryotes, et de l'autre côté, les eucaryotes qui regroupaient les animaux, les plantes, les algues, les champignons,
etc. Ce que vous nous avez indiqué au début.
Voilà, etc. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu la révolution en fait, de la biologie moléculaire qui a abouti à la possibilité de séquencer les molécules, donc séquencer les protéines, séquencer les acides nucléiques. Tout le monde a entendu parler aujourd'hui du séquençage du génome humain. Alors, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces séquences, lorsqu'on a accès aux séquences de ces macromolécules, on a en fait accès à des reliques fossiles. On a en fait accès à, un petit peu comme les paléontologues avec les ossements fossiles peuvent reconstituer l'histoire des organismes, avec les séquences des macromolécules, ce qu'on appelle les macromolécules, ce sont donc soit les protéines, soit l'ADN, les acides nucléiques, on a la possibilité de retracer l'histoire des organismes. Pourquoi ? Parce qu'on peut en fait déterminer comment ces séquences ont évolué à partir de celles de l'ancêtre commun. Donc l'idée géniale de ce chercheur américain dont je parlais tout à l'heure, la Carl Woos, ça a été de choisir une molécule, une macromolécule universelle, c'est-à-dire présente chez tous les êtres vivants cellulaires, parce qu'il y a les virus n'en ont pas, mais donc c'est un peu une autre question. Disons, chez tous les êtres vivants, on a cette macromolécule qui est présente dans les organites que l'on appelle les ribosomes, qui sont très très importants, qui sont présents dans toutes les cellules. Ce sont au niveau de ces organites que les protéines sont synthétisées. Donc, comme tous les êtres vivants sont composés de protéines, ils ont tous cette machinerie tout à fait étonnante. Et dans ces ribosomes, on a plusieurs macromolécules et l'une d'entre elles, bon là ça devient un peu technique, on appelle l'ARN ribosomique, etc. Cette molécule a été choisie par Carl Woos et son équipe pour essayer de déterminer les relations de parenté entre les êtres vivants en comparant les séquences chez aussi bien l'homme que des bactéries, etc.
Et donc, nous arrivons en 1970, en tout cas dans cette période-là, voilà. À Yellowstone, c'est ça ?
Voilà. Alors, peut-être avant d'aller à Yellowstone, ce qui est apparu lorsqu'on a pu établir ce qu'on appelle aujourd'hui un arbre universel du vivant, c'est-à-dire un premier arbre dans lequel on a des relations de parenté entre tous les organismes, eh bien, on s'est aperçu que les microbes, dont on parlait tout à l'heure, justement, représentent en fait plus de 99% de la diversité sur Terre. Si on regarde les arbres aujourd'hui que l'on peut construire, en fait, on voit que les animaux, les végétaux, les organismes multicellulaires que l'on voit autour de nous, moi je les appelle les macrobes, par opposition aux microbes, on s'aperçoit qu'ils ne représentent qu'une toute petite fraction de la biodiversité. Et ça, les gens ne s'en rendent pas compte. On ne s'en rend pas compte simplement parce qu'on ne voit à l'œil nu que les microbes. Et les microbes, il faut un microscope. Ça, c'était un premier résultat. Et le deuxième résultat, c'est que ce monde, avec 99% de microbes, on pouvait effectivement le diviser en trois grands groupes. Un grand groupe correspondant à ce qu'on avait appelé les eucaryotes, un autre groupe correspondant à ce que l'on appelait jusque-là les bactéries, et ce troisième groupe correspondant à ce que l'on a appelé pendant un temps les archébactéries. Et ensuite, arché tout court, pourquoi ? Simplement parce qu'on s'est aperçu que sur le plan, disons, de la ressemblance des grands systèmes moléculaires, ils nous ressemblent plus qu'aux bactéries. Éventuellement, j'y reviendrai tout à l'heure. Et le lien avec Yellowstone dont on parlait tout à l'heure, c'est que très vite, l'équipe de Carl Woos s'est aperçue que l'organisme qui était connu à l'époque, donc on était en 77-78,
oui.
Comme étant l'être vivant capable de vivre aux températures les plus élevées, donc qui s'appelle toujours d'ailleurs, Sulfolobus acidocaldarius.
Et nous aurons d'ailleurs une série de noms comme ça, un peu discornus.
Sulfolobus acidocaldarius, à l'époque, il détenait le record de haute température, il pouvait vivre jusqu'à 85 degrés. Il avait été isolé à Yellowstone quelques années auparavant par un microbiologiste américain, Thomas Brock, et on s'est aperçu qu'il faisait partie de ce nouveau groupe des archées.
Qui ne pouvait pas entrer dans les autres classifications.
Voilà, donc c'était une archée, alors il n'était pas le seul, et on avait également des organismes capables de vivre dans des concentrations de sel très élevées, qu'on appelle les halophiles, amoureux du sel. Et on avait également les méthanogènes, c'est-à-dire des organismes capables de produire du méthane, qui sont des anaérobes strictes, qui sont tués par l'oxygène, et que l'on trouve en très grande abondance, entre autres, dans notre intestin. Donc ça veut dire que ces archées ne sont pas simplement présentes à Yellowstone ou autre, elles sont vraiment présentes dans la biosphère, disons.
Donc, ce sont des micro-organismes, en tout cas, voilà. Bien connus de tous. Par exemple, pour le dernier élément que vous venez de nous préciser, par exemple, c'est ce que l'on trouve également dans les marais. Donc, c'est ce qui provoque l'effet follet.
Voilà, exactement. Dans les marais, dans les rizières, dans tous les environnements, en fait, anaérobies, on trouve ces méthanogènes. Pour terminer peut-être sur les archées, avant de passer plus aux microbes de l'enfer, ces dernières années, on s'est aperçu, en fait, qu'on avait des archées en très grande quantité dans tous les biotopes, même froids, dans les océans, dans les sols, et qu'elles étaient responsables en grande partie du cycle de l'azote. Ça, c'est une découverte qui a maintenant un ou deux ans. Ça, je trouve ça quand même assez incroyable. Ça veut dire que ça fait que deux ans que l'on connaît quels sont les micro-organismes sur notre planète qui sont les principaux acteurs du cycle de l'azote. Pendant des années, et un grand nombre d'équipes de recherche travaillaient sur des bactéries impliquées dans ce cycle de l'azote en pensant qu'elles étaient les seules impliquées et qu'elles avaient leur rôle principal. Et en fait, depuis 2 ans, on s'aperçoit que non, c'était un autre groupe, donc appartenant à ces archées, qui était jusque-là complètement inconnu. Personne n'avait réussi à les cultiver en laboratoire. Donc il y a encore vraiment des découvertes fondamentales à faire par rapport aux microbes aujourd'hui.
Poursuivons peut-être sur ces thermophiles. Donc, nous avons parlé des microbes thermophiles. À partir de quand nous parlons d'hyperthermophiles ?
Alors, on parle d'hyperthermophiles à partir du moment où on a une température optimale de croissance au minimum de 80 degrés. Alors, en fait, ce terme d'hyperthermophile a été introduit par un microbiologiste allemand très, très connu, Karl Stetter, qui les a découverts avec un autre chercheur allemand, Wolfram Zillig. Ils ont été parmi les premiers à justement s'intéresser aux travaux de Karl Woese et à la découverte de ce troisième groupe d'êtres vivants sur Terre, donc les archées. Et dès le début des années 80, ils se sont dit qu'à partir du moment où ces archées, alors on reviendra peut-être plus tard sur ce point, mais déjà à l'époque, certains auteurs pensaient qu'elles étaient peut-être plus vieilles que les autres organismes, d'où leur nom d'archées, les vieilles. Ils ont pensé, à l'époque, je vous ai parlé de Sulfolobus, qui vivait à Yellowstone, c'était un organisme aérobie. Aérobie, c'est-à-dire qui a besoin d'oxygène pour
vivre. Qui a besoin d'oxygène.
Et on sait que l'atmosphère primitive terrestre, il n'y avait pas d'oxygène. Donc, si l'on veut s'intéresser à des organismes, entre guillemets,
anciens,
on s'attend plutôt à trouver des organismes anaérobies, c'est-à-dire qui n'ont pas besoin d'oxygène pour vivre, et même éventuellement qui sont tués par l'oxygène. Donc, c'était un peu curieux que cet archée thermophile dont j'ai parlé tout à l'heure, Sulfolobus, soit aérobie. Le raisonnement de Stetter et Zillig a été de se dire, eh bien, il doit exister des archées qui sont également thermophiles, mais anaérobies. Ils ont été les chercher.
À Naples, c'est ça ?
Alors à Naples tout d'abord, ensuite en Islande, différents endroits. Ils ont été les chercher et ils les ont trouvés.
Donc dans des zones volcaniques.
Voilà, dans les zones volcaniques. C'est surtout en fait en Islande. Ils ont d'abord été à Naples pour rechercher à nouveau le Sulfolobus en question dont on a déjà parlé. Ensuite, ils ont été en Islande et là, dans les solfatares islandais, enfin dans les sources chaudes islandaises, ils ont trouvé très vite des micro-organismes qui poussaient à des températures supérieures à celles de Sulfolobus. Donc ils ont battu le record du monde de l'époque. Très très vite, puisqu'on était à 80 degrés en 77, disons, ou 80 même quand ils ont commencé leurs travaux. Et en 82, donc, Stetter publiait un organisme capable de vivre jusqu'à 110 degrés, avec une température optimale de croissance de 105. Donc le record a été très vite battu. Et pour mettre en avant ces organismes, donc, c'est Stetter qui a trouvé ce nom d'hyperthermophile, pour les distinguer des thermophiles simples, disons, qui étaient déjà connus à l'époque.
Je vous propose de marquer une première courte pause, Patrick Forter. Dans la deuxième partie, bien sûr, nous développerons cette question d'hyperthermophile. À tout de suite.
Le philosophe René Girard de l'Académie française poursuit sa réflexion sur la violence qui, échappant à tout contrôle, menace la planète. Il vient de publier un nouveau livre, Achevé Clausewitz. Retrouvez-le sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Patrick Forter, dans cette deuxième partie d'émission, Patrick Forter, finalement, nous ne nous posons pas forcément la question de savoir pourquoi il est si étonnant qu'il y ait de la vie au-delà de 60 degrés.
Oui, tout à fait. C'est une question que je me suis posée en écrivant cet ouvrage, La microbe de l'enfer. Je me suis demandé, pour le grand public, est-ce que finalement c'est étonnant de trouver des organismes qui vivent à 80, 90, 100 degrés ? On entend souvent dire qu'il y a des microbes partout, dans l'eau, dans l'air, etc. Donc pourquoi pas finalement en trouver dans les sources chaudes volcaniques à ces températures. Pour les scientifiques, ça a été une grosse surprise, surtout pour les biochimistes, disons, qui connaissent, qui étudions les protéines, les acides nucléiques, tous les constituants de la matière vivante. Pour nous, a priori, c'est quelque chose de fragile. Les protéines, c'est on sait qu'elles peuvent se dénaturer à haute température. Quand j'étais en thèse et que je purifiais des protéines, le matin en arrivant tout de suite, on prenait un bac à glace, on gardait toujours notre protéine dans la glace en se disant si elle est exposée à des températures trop élevées, elle va s'abîmer. En fait, c'est parce que les molécules essentielles du vivant, donc toujours ces protéines, l'ADN, on parle beaucoup de l'ARN également, ce sont ces macromolécules, elles doivent leur structure à des interactions chimiques qu'on appelle faibles. Et ces interactions chimiques faibles, en général, à haute température, comme leur nom l'indique, elles sont trop faibles pour tenir le coup. Et eh bien, les édifices moléculaires qui sont présents dans les cellules s'effondrent. Pour prendre un exemple, tout le monde connaît la fameuse double hélice d'ADN avec ses deux brins entortillés l'un autour de l'autre. Eh bien, si en laboratoire, on met une molécule d'ADN à 70-80 degrés, les liaisons, les interactions chimiques qui maintiennent ces deux brins l'un autour de l'autre, en fait, sont cassées, sont détruites par la chaleur. La chaleur, c'est une agitation des atomes, une agitation des molécules. Et on voit que les deux brins se séparent. Et donc, pour beaucoup de scientifiques, en fait, 70-80 degrés, c'était vraiment la limite, un petit peu, à laquelle on pouvait trouver du vivant. En particulier parce que la molécule d'ADN, on se disait comment elle fait pour rester intacte à haute température, pour rester sous forme de double hélice. Donc c'est pour ça que c'était vraiment une surprise de trouver des organismes poussant à ces températures.
En plus, on a en tête, au-delà d'une certaine température, je pense par exemple à la pasteurisation. Au-delà de 80 degrés, par exemple, il y a une stérilisation.
Voilà. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, les micro-organismes qui sont habitués à vivre à des températures, disons, de 30-40 degrés, ce qui est le cas des bactéries pathogènes, donc les bactéries responsables de maladies, celles qu'on veut éliminer lorsqu'on pasteurise, tout leur système moléculaire, leurs protéines, sont adaptées pour fonctionner à 30, 40, 50 degrés. Et effectivement, si on les met à 80 degrés, eh bien, les liaisons chimiques qui maintiennent ces structures ne sont pas assez fortes pour leur permettre de tenir le coup.
Ces hyperthermophiles, ça veut dire qu'ils ont un seuil, un degré supplémentaire? Parce que, par exemple, pour reprendre l'exemple juste avant notre pause, vous parliez en 1982 d'un hyperthermophile qui avait été découvert, qui était de l'ordre de 110 degrés, température de croissance. Oui. Cet hyperthermophile est frigorifié à 90 degrés.
Oui. En fait, ce qui se passe, c'est que ces protéines, au cours de l'évolution, se sont adaptées pour fonctionner de façon optimale à, disons, 95, 100, 105 degrés. Et si on met ces protéines à 90, 85, 80 degrés, eh bien, elles sont trop rigides. Elles n'ont pas la flexibilité nécessaire pour, justement, soit catalyser une réaction chimique ou interagir avec d'autres molécules dans la cellule. Et elles ne marchent plus. Disons, au cours de l'évolution, les organismes sont toujours optimisés pour fonctionner dans les conditions où ils doivent vivre normalement, quoi, avec une certaine gamme de température. Mais ça ne va pas dépasser, disons, on va avoir une gamme entre 30 et 40 degrés entre la température la plus basse et la température la plus élevée.
Dans votre livre « Les microbes de l'enfer », il y a un épisode où vous relatez une découverte qui mentionnait un hyperthermophile qui allait jusqu'à 250 degrés. Alors la question que je vais vous poser, c'est de savoir jusqu'à quelle température on peut trouver des microbes.
Alors, je mentionnais cette histoire parce qu'elle a fait beaucoup de bruit au niveau médiatique. À l'époque, c'était un article publié dans Nature par deux chercheurs américains qui avaient décrit une bactérie isolée des grands fonds sous-marins, ce qu'on appelle les fumeurs, qui était censé se diviser encore à 250 degrés. Alors, ça avait fait un scoop, les radios, la plupart des télés en avaient parlé, je me rappelle à l'époque. Ça a fait beaucoup de tort finalement aux vrais microbes de l'enfer, parce que, bien sûr, après, lorsqu'on parlait d'une archée découverte qui poussait à 110 degrés, ça avait l'air un peu mesquin. Mais en fait, c'était une grossière erreur de la part des scientifiques qui avaient publié ce travail. Les biologistes qui connaissaient un peu la chimie avaient été surpris, parce qu'à 250 degrés, bien sûr, les liaisons faibles dont je parlais tout à l'heure, les liaisons chimiques faibles, ne tiennent pas le coup, mais même les liaisons qu'on appelle fortes, c'est-à-dire les liaisons qui forment le squelette des macromolécules, le squelette des protéines ou des lipides ou des sucres, etc., même ces liaisons-là ne tiennent pas le coup longtemps. D'ailleurs, si on chauffe trop un organisme vivant, à la fin, on a du charbon, un petit tas de carbone. Donc, à 250 degrés, pour imaginer vraiment des êtres vivants à 250 degrés, il aurait fallu imaginer une chimie différente. Il aurait fallu vraiment imaginer quelque chose de complètement différent. Un autre chercheur américain, ensuite, a montré quelles avaient été les erreurs méthodologiques expliquant ce résultat. Mais alors, ce qui s'est passé, bien sûr, c'est que lorsque la publication dans Nature de ce second chercheur américain est parue, 2-3 ans plus tard, elle n'a pas du tout été relayée dans les médias, personne n'en a parlé. Et du coup, pour beaucoup de gens, c'est resté cette histoire de 250 degrés.
Alors maintenant, en pratique.
Alors en pratique, si on revient sur Terre, en fait, c'est intéressant de voir que le record était passé très rapidement de 85 en 78-79 à 110 en 1982. Et ensuite, il a fallu attendre 1996 ou 17, je ne me rappelle plus exactement, pour qu'il soit battu et que l'on passe à 113. Donc, ce qui n'est quand même pas une grosse différence. Et depuis, en fait, je dirais que le record homologué reste 113. Il y a 4 ans, une équipe américaine a publié un chiffre de 121 degrés pour une archée qui pourrait encore pousser très mal, très lentement à 121 degrés. Mais c'est très controversé. En fait, l'expérience n'a pas été reproduite par un autre laboratoire. L'année dernière, j'étais à un congrès où un chercheur japonais a présenté un travail dans lequel il décrit une culture sous pression qui irait jusqu'à 122 degrés. Mais là encore, bon, ça n'a pas été publié, il faut attendre de voir. Disons qu'on a l'impression quand même qu'aux alentours de 110, on a vraiment une barrière. Et cette barrière, en fait, de mon point de vue, elle s'explique par les problèmes des lipides, des membranes des cellules.
Vous parliez, il y a quelques minutes, d'évolution. Ça signifie que, justement, la question qui s'était posée avec Karl Woese et Karl Stetter, qui posait la question de savoir « et si la vie elle-même était née à haute température ?» Ça veut dire que, quelque part, vous leur répondez, puisque vous parlez d'évolution. Ça veut dire que la vie n'est pas forcément née de la haute température, mais c'est une adaptation.
Alors, bien sûr, la question, c'est de savoir dans quel sens s'est produite l'évolution. Dans le débat qui a toujours lieu à l'heure actuelle, à savoir est-ce que la vie est apparue, il y a un grand débat, c'est est-ce que la vie est apparue à très haute température ? ou bien température plus basse, etc. Donc, dans le premier scénario d'une vie à haute température, eh bien, il faut imaginer une évolution, cette fois-ci, une adaptation aux basses températures. En fait, ce sont les organismes que l'on appelle mésophiles, qui vivent à des températures entre 20 et 40, 50 degrés. Ce sont ces organismes qui se seraient adaptés, c'est nous en particulier, on se serait adapté à vivre à basse température. Nos très très lointains ancêtres auraient tous vécu en enfer, entre guillemets. Donc ça, c'est le premier scénario. Deuxième scénario, la vie serait apparue à des températures plus proches de celles, disons, qui sont aujourd'hui la norme pour la grande majorité de la biosphère. Et dans ce cas-là, on aurait eu adaptation de ces micro-organismes. Donc, dans tous les cas, il y a eu évolution, il y a eu adaptation, mais dans quel sens ? C'est là où il y a un débat entre les scientifiques.
Le premier scénario peut interpeller comme ça sur le moment, mais quand on réfléchit, et c'est ce que vous disiez au cours de la première partie de l'émission, c'est que sur Terre, il n'y avait pas d'oxygène. Oui. Donc, cette théorie d'avoir les hyperthermophiles au début, comme oui. tout premier organisme, micro-organisme, semble tout à fait plausible, et je pense que ça fait encore beaucoup d'émules.
Pas tellement au niveau de l'oxygène, non, parce que là, il faut faire attention. En fait, il y a énormément d'organismes qui ne supportent pas l'oxygène, qui sont anaérobistriques et qui ne sont pas des thermophiles. Tout à l'heure, on parlait des méthanogènes, donc les archées productrices de méthane. Elles sont toutes anaérobies. On a des méthanogènes hyperthermophiles qui poussent jusqu'à 110 degrés, Methanopyrus candleri. Mais on a dans le même groupe des méthanogènes psychrophiles qui poussent entre 0 et 5 degrés dans les vallées froides de l'Antarctique et qui sont également anaérobies. Donc, disons, l'anaérobiose n'est pas un argument pour mettre en avant l'ancienneté de ces hyperthermophiles.
Et la notion de température, je suppose que lors de la naissance de la planète Terre, il devait faire une température très élevée. Donc,
voilà.
Avec toutes ces météorites qui arrivaient.
Voilà,
comme
ça c'est un autre argument qui, lui, est, disons, a priori pourrait être valable. C'est de dire que la Terre primitive était beaucoup plus chaude que la Terre actuelle. Et donc, c'était un peu logique que la vie apparaisse dans des conditions de très haute température. Un des problèmes, c'est qu'en fait, on ne sait pas du tout comment la vie est apparue sur Terre. Ça reste un très grand mystère. Non seulement on ne sait pas comment elle est apparue, mais on ne sait pas non plus quand elle est apparue. Il y a de gros débats, de conflits entre scientifiques aujourd'hui sur la validité des plus anciens microfossiles mis en évidence. Pendant longtemps, on pensait qu'il n'y avait pas de problème. On avait observé des microfossiles à 3 milliards 400 millions d'années, sachant donc que la Terre date d'environ 4 milliards 500 millions. Donc on avait en tout cas des microfossiles à 3 milliards 4. Aujourd'hui, ils sont très controversés, c'est très discuté. Disons, de ce que j'ai pu voir, disons, à 2,7 milliards, il n'y a aucun doute, mais au-delà, tous les microfossiles sont plus ou moins controversés. D'autre part, l'histoire de la Terre est assez complexe. C'est vrai que la Terre s'est formée par l'accrétion de météorites, mais il semble que cette période initiale, donc où il y a eu un océan de magma, a été relativement courte, quelques dizaines de millions d'années, ou 50 millions d'années peut-être, ce qui est relativement court au niveau géologique. Et que très tôt, disons à 4,3 milliards, 4,4 milliards, il y avait déjà des océans, la Terre s'était refroidie. Puis ensuite, il y a eu un épisode que les astrophysiciens appellent le grand bombardement tardif, qui a eu lieu aux alentours de 3,9 milliards, où là, il y a eu un bombardement absolument dévastateur de la Terre, qui correspond en fait à ce que l'on voit sur la Lune avec tous les cratères de météorites. Et ce n'est pas du tout évident. Pour moi, quand j'ai lu des descriptions de ce bombardement par des astrophysiciens, je n'arrive pas à imaginer que la vie ait pu survivre à ce bombardement. Donc pour moi, la vie serait apparue plutôt après. Ce qui est discuté. Bien sûr, alors là, il y a deux écoles, disons. Personnellement, je penserais plutôt que la vie est apparue après, une fois que le bombardement s'est calmé et donc dans des conditions qui auraient très bien pu être de température plus raisonnable. D'autres scientifiques pensent que la vie aurait justement survécu à ce bombardement et que seuls, en fait, auraient survécu les hyperthermophiles, par exemple. Parce qu'ils vivaient dans les grandes profondeurs, au niveau de sourcils thermales, parce qu'ils avaient des protéines très résistantes à la haute température, etc. Donc, il y a ces deux écoles actuellement. Il y a vraiment deux écoles parmi les scientifiques. L'école chaude et l'école froide.
Et donc, vous êtes plutôt école froide.
Moi, je serais plutôt école froide. Alors, si on rebondit sur l'histoire de la limite de vie à haute température, si vous interrogez des scientifiques qui sont partisans de l'école chaude et que vous leur demandez quelle est la limite où on peut trouver de la vie, ils vont dire entre 130 et 150 degrés. Oui. Et ce n'est pas un hasard si vous avez, par exemple, ce chercheur japonais qui monte à 122. Il y a un désir de trouver des micro-organismes à des températures, voilà, qui vont aller vivre à des températures de plus en plus élevées, avec l'idée qu'on se rapproche finalement de temps encore plus anciens. Et moi, j'aurais tendance à dire, en fait, 110, 113, on est arrivé à la limite, pour des raisons biochimiques, en fait, parce qu'on sait que les membranes des cellules ont un gros problème lorsqu'on élève la température, elles deviennent perméables. Ce que je dis, c'est que lorsqu'on respire ou lorsque l'on mange, le but de tout ça, en fait, c'est pour produire de l'énergie. Et ça passe par un mécanisme assez étonnant. Mais entre autres, une des étapes essentielles de ce mécanisme, c'est d'éjecter des protons, donc d'atomes d'hydrogène, d'éjecter des protons de l'intérieur de nos cellules vers l'extérieur. Ils s'accumulent à l'extérieur et lorsqu'on a un déséquilibre entre la quantité de protons à l'extérieur et à l'intérieur, ceux qui sont à l'extérieur veulent rentrer, ils rentrent. Ils doivent rentrer par des passages un peu spécialisés où il y a des turbines, comme des, on peut imaginer comme on a un barrage avec l'eau du barrage qu'on force à descendre par une canalisation avec des turbines, et on va faire de l'électricité. C'est exactement ça, en fait. On a ces gradients de protons qui se créent, ces flux de protons dans nos cellules, dans toutes nos cellules, c'est-à-dire à la surface de toutes nos cellules, on a ce système qui va fabriquer notre énergie. Et pour que ce truc-là marche, pour que ce système marche, il faut absolument que nos membranes soient imperméables aux protons pour les forcer à passer par les tuyaux, en quelque sorte. Si vous avez le barrage qui commence à fuir, si l'eau peut passer par le barrage devient poreux, l'eau traverse, ça ne va plus marcher, le système va s'arrêter. Et donc là, c'est un point critique pour la vie à haute température. On s'aperçoit qu'avec des membranes classiques, lorsque l'on chauffe à même à 70-80 degrés, ça ne marche plus, le système ne marche plus. Si on prend des lipides extraits d'archées hyperthermophiles, là, on arrive encore à faire marcher le système jusqu'à 105-110 degrés. Mais au-delà, à nouveau, ça ne colle pas. Donc pour moi, personnellement, je pense que c'est cet aspect-là, c'est ce problème des membranes qui fait qu'on ne trouvera pas, à mon avis, de vie à des températures plus supérieures à 110-115 degrés.
Je vous propose de marquer une seconde courte pause, Patrick Porter. Dans la deuxième partie, nous partirons justement à la chasse aux hyperthermophiles, si vous voulez bien. À tout de suite.
Les avancées dans la recherche médicale et les espoirs thérapeutiques de demain, Canal Academy vous propose une douzaine d'émissions sur ce thème. Quand l'imagerie médicale permet de lutter contre le cancer, quand la technique satellitaire peut servir à guérir en Afrique, quand la chirurgie appose une greffe sur un visage, mais aussi quand les médecins et les philosophes s'interrogent sur le clonage thérapeutique et la bioéthique. Soyez à la pointe des dernières découvertes et avancées médicales grâce au travail de diffusion du savoir par l'Académie des sciences.
Suite de notre émission Éclairage en compagnie de Patrick Porter avec qui nous parlons des microbes de l'enfer, qui est également le titre de son ouvrage paru aux éditions Belin Collection pour la science, publié donc en 2007. Dans cette troisième partie, Patrick Porter, vous allez nous emmener à la chasse aux hyperthermophiles et nous commençons avec une première expédition à 2000 mètres de profondeur dans les abysses avec Evelyne Marguet. Donc vous avez en fait publié dans votre livre son journal de bord.
Voilà, c'est une ingénieure CNRS du laboratoire qui a eu la possibilité de participer à une expédition organisée par l'IFREMER et le CNRS donc au large du Mexique pour aller récupérer des échantillons pour isoler ces micro-organismes, microbes de l'enfer. Et c'est vrai qu'on parle beaucoup aujourd'hui d'une crise de vocation parmi les jeunes pour la recherche, pour la science. Donc dans cet ouvrage, j'ai aussi essayé de montrer que la science n'était pas quelque chose de triste qui servait simplement à donner des sujets d'examen, mais qu'on pouvait vraiment se passionner pour ce travail. Donc il y a toute l'histoire des chercheurs qui ont été à l'origine de ces travaux sur les microbes de l'enfer, et puis il y a l'exploration qui était une partie vraiment importante. Donc on a déjà vu les explorations à Yellowstone, les explorations en Islande de ces chercheurs allemands, et l'exploration très spectaculaire, c'est celle des grands fonds marins qui a commencé en 77 également d'ailleurs, avec la découverte de ces oasis de vie, donc ces fumeurs qu'on trouve au fond des océans, par les Américains, donc le sous-marin Blue. Et en France, on a la chance d'avoir un sous-marin, le Nautile. Voilà, qui est un petit sous-marin jaune, qui est très très performant, qui permet d'embarquer donc un scientifique avec un pilote et un copilote. Et régulièrement, donc, des campagnes sont organisées. Depuis une vingtaine d'années maintenant, un certain nombre de ces campagnes couvrent également la microbiologie, puisque pendant longtemps, c'était beaucoup la géologie ou bien la zoologie avec l'étude des animaux présents dans ces oasis. Surtout grâce aux efforts de Daniel Prieur à Roscoff et ensuite à Brest, donc la microbiologie est devenue une composante importante de ces expéditions, aussi Joël Quérelou à l'IFREMER à Brest. Et donc là, c'était l'occasion un petit peu de raconter comment ça se passe, disons, d'entrée. J'ai essayé de décrire cette journée qui était tout à fait extraordinaire pour quelqu'un comme ça qui est novice, hein, puisque pour Evelyne, c'était la première fois qu'elle participait à ce type d'expédition et qu'elle avait l'occasion de descendre dans le sous-marin. Et c'était vraiment une expérience extraordinaire.
Donc 2000 mètres de profondeur, donc c'est ce qu'on appelle
voilà,
les abysses.
2800 mètres.
2600,
enfin quelque chose comme ça.
Donc une heure pour descendre.
Voilà.
Et donc elle
heures,
va piéger, comment elle va faire pour piéger ces petits microbes? Elle va la pêche au-dessus de ces
alors
fameux
c'est ce sous-marin, voilà. Oui, ce sous-marin en fait est maniable. Une fois au fond, il peut se déplacer avec des moteurs et il y a des bras articulés qui permettent de récupérer des échantillons. Donc en fait, concrètement, de casser des bouts de cheminée et de les mettre dans des paniers et ensuite de remonter ces bouts de cheminée à la surface. Alors là, il s'agissait d'une expédition internationale avec donc des chercheurs de tous les pays. On avait des chercheurs américains, russes, belges, allemands, français. Et donc, tous les jours, l'un des chercheurs descendait. Ces chercheurs récupéraient des échantillons, mais dans certains cas également réalisaient des expériences, par exemple déposer au fond sur un fumeur des pièges à micro-organismes pour concentrer ces micro-organismes. Et éventuellement, si un chercheur un jour descendait un piège, un autre chercheur récupérait le piège de son collègue quelques jours plus tard.
Les résultats, elle a trouvé justement tout ce qu'elle voulait dans le domaine des hyperthermophiles.
Oui, on a récupéré des échantillons lors de cette campagne qui nous ont permis d'avoir d'isoler une collection de souches d'hyperthermophiles, donc d'organismes. Les archées en particulier.
Parce qu'on n'a peut-être pas précisé, mais de ces cheminées sortent du gaz, c'est ça, à des températures très élevées.
Voilà, alors ce qui se passe en fait, c'est que l'eau de l'océan diffuse dans les profondeurs du plancher océanique. Et lorsque l'eau se rapproche du magma, elle se réchauffe. Et en fait, ensuite, sous pression, elle remonte à la surface. Elle remonte en emportant des sels minéraux. Ce qui fait que lorsque l'eau sort à la surface à une très forte température chargée de sels minéraux, on va avoir une précipitation. Ce qui va expliquer le fait de ces panaches de fumée. Donc, ce que l'on voit sortir, ce n'est pas quelque part, c'est de l'eau, mais l'eau liquide, mais c'est en même temps des panaches de fumée noires ou blanches. Donc, on voit sortir ces panaches de fumée très spectaculaires qui ont été appelés fumeurs noirs ou fumeurs blancs.
Et qui donnent ces côtés un peu stalactites.
Voilà, hein, stalactites. Il faut savoir que l'eau peut sortir à des températures de 200 à 300 degrés. Elle reste liquide, puisque l'on est à très grande profondeur, donc sous pression, elle reste liquide. Ce qui explique pourquoi les chercheurs américains, dont je parlais tout à l'heure, avaient imaginé des bactéries vivantes ici à 250 degrés. Mais en fait, les archées présentes au niveau de ces sources ne sont pas présentes dans le fluide, dans le liquide. Elles sont présentes dans les pores minérales rocheuses de la cheminée. C'est-à-dire qu'entre le fluide qui sort de la cheminée à 250 degrés et l'eau de mer qui est à 2 degrés, l'eau de l'océan, 2 ou 4 degrés, on a tout un gradient de température. Et c'est dans ce gradient que l'on va trouver des bactéries, des thermophiles modérés, des thermophiles et finalement des hyperthermophiles.
Et donc, on a pu découvrir d'autres hyperthermophiles, en tout cas, donner d'autres noms.
Voilà, alors il y a eu d'autres noms de données, pas par nous, oui, effectivement. On a isolé un organisme que l'on a appelé Thermococcus nautilus, donc la coque chaude Thermococcus nautilus isolée grâce au nautile. Et elle s'avère très intéressante puisqu'elle contient ce que l'on appelle un plasmide. Alors un plasmide, c'est un petit chromosome qui est là en plus du chromosome normal. On pense en fait, personnellement, je pense que ces plasmides sont d'anciens virus qui ont évolué en perdant leur capside, leur coque protéique. Et dans le cas de Thermococcus nautilus, donc, que l'on a isolé lors de cette campagne, il se trouve que ce plasmide est maintenant utilisé par une équipe américaine avec laquelle on collabore pour faire de la génétique chez ces archées hyperthermophiles. On va pouvoir faire des OGM de ces microbes. Vous savez que pour arriver à étudier des organismes, c'est très important de pouvoir faire de la génétique et de faire ce que l'on appelle aujourd'hui les manipulations génétiques, c'est-à-dire oui. De pouvoir faire entrer de l'ADN, pouvoir manipuler cet ADN, pouvoir créer des mutants, etc., etc. Et jusque-là, on ne pouvait pas le faire avec ces micro-organismes. Il y a quelques années, une équipe japonaise a réussi à développer des outils qui permettent aujourd'hui, par exemple, de faire des mutants. Et là, avec ce plasmide de Thermococcus nautilus, on va pouvoir aller plus loin, par exemple, exprimer des protéines dans ces hyperthermophiles, faire pas mal de manips. Donc ça, de ce point de vue-là, ça a été très positif.
Avant d'en venir à l'utilité que nous pourrions avoir de ces hyperthermophiles, l'autre expédition à laquelle vous faites référence, qui est la vôtre en fait, que vous menez également avec Evelyne Marguet, c'est le long des côtes siciliennes. Oui. Et là, c'est l'idée d'aller le long des côtes et de récupérer aussi dans les zones d'ébullition au niveau de la mer.
Oui, tout à fait. Alors là, c'était un petit peu une expédition très familiale, avec Wolfram Zillig, donc ce chercheur allemand qui a été un des pionniers de la recherche sur les hyperthermophiles.
C'était en 2001.
Voilà, c'était en 2001. Bon, il avait 76 ans à l'époque. Depuis, il est décédé à 80 ans, malheureusement. Donc, il était encore actif scientifiquement. Il revenait un petit peu sur le lieu de ses exploits. C'est là où il avait isolé, dans les années 80, avec Stetter, des thermococcus déjà à l'époque. C'est là où Stetter avait isolé l'organisme Pyrodictium qui poussait à 110 degrés. Donc, on était intéressé pour compléter notre collection avec des hyperthermophiles, cette fois-ci isolés à partir de sources terrestres ou marines, mais pas très profondes. Et on était intéressé par ce site, parce que Vulcano est un site tout à fait intéressant, avec des sources chaudes qui sont quand même proches de la plage, mais environ à 5-10 mètres de profondeur. Donc, on peut avoir des organismes vivants à très haute température. On a des sources sur la plage qui sont à 99 degrés.
On parle de microbes hyperthermophiles. Est-ce qu'il existe des bactéries hyperthermophiles?
Oui, alors... Là, jusqu'à présent, j'ai surtout parlé des archées, qui sont capables de pousser, donc on a vu, jusqu'à 110, 113 degrés, peut-être plus. Il existe également des bactéries classiques qui sont capables de pousser à des températures allant jusqu'à 95 degrés. Donc le record pour les bactéries, c'est 95 degrés. On pense qu'elles ne peuvent pas aller jusqu'à 110, justement parce que les lipides de leur membrane, bien qu'ils soient adaptés aux températures, ils ne sont pas aussi performants que ceux des archées pour maintenir cette barrière de perméabilité dont je parlais tout à l'heure. Mais donc, on a des bactéries hyperthermophiles. La plus célèbre, bien sûr, c'est une bactérie qui s'appelle Thermus aquaticus, qui est une thermophile, pas une hyperthermophile. Elle pousse aux alentours de 75 degrés, mais elle est très célèbre parce que c'est d'elle qu'a été isolée une enzyme qui a révolutionné la biologie moléculaire ces 20 dernières années.
Aujourd'hui, quelle utilité pouvons-nous avoir de ces microbes hyperthermophiles ?
Alors voilà, donc je vais embrayer sur cette enzyme dont je viens de parler à l'instant.
Oui.
On l'appelle la TAC polymérase, TAC pour Thermus aquaticus. Donc c'est le nom de la bactérie qui a été découverte également à Yellowstone d'ailleurs, par le microbiologiste américain Thomas Brock, le même qui ensuite a découvert Sulfolobus sulfataricus. Il avait découvert Thermus aquaticus un peu plus tôt, et c'était en 67. Et il se trouve que quelques années plus tard, cette bactérie a été utilisée par une jeune start-up de biotechnologie en Californie pour isoler une enzyme capable d'amplifier la molécule d'ADN. Alors, cette réaction qui a été mise au point par cette start-up, qu'on appelle la PCR, alors c'est en jargon... Polymerase Chain Reaction, ça veut dire une réaction de polymérisation en chaîne. C'est une réaction qui a vraiment révolutionné la biologie, et même plus, puisque en fait, aujourd'hui, à chaque fois que vous entendez parler à la radio, à la télé d'ADN, de test ADN, soit un test de paternité, soit pour retrouver un assassin, soit pour innocenter un coupable, en fait, sur les lieux du crime, entre guillemets, on n'a jamais assez d'ADN pour pouvoir l'analyser. Donc, à chaque fois que vous entendez parler d'analyse ADN, on a une étape où on doit amplifier cet ADN, cette technique. Elle a été inventée en 1985, donc c'est relativement récent, par un Américain donc, qui travaillait dans cette boîte de biotechno en Californie, Carey Mullis, qui a eu le prix Nobel peu de temps après. Et ça a boosté la recherche sur les hyperthermophiles et les thermophiles, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de financements donnés dans ce secteur en espérant trouver des enzymes qui feraient encore mieux que celle-ci ou bien d'autres enzymes qui révolutionneraient également l'industrie ou les biotechnologies.
Autre domaine plutôt médical, je vous cite, vous expliquez que la structure de certaines protéines humaines impliquées dans l'apparition de cancers aujourd'hui être déterminée grâce aux microbes de l'enfer.
Oui, ça c'est un aspect très important parce que ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit en passant tout à l'heure quand j'ai parlé des archées. Je vous ai dit qu'au départ on les avait appelés archébactéries et que maintenant on les appelait archées tout court pour ne pas les confondre avec les bactéries.
Oui.
Pourquoi ? Parce que c'est vrai qu'elles ressemblent aux bactéries. Si on regarde au microscope électronique ou optique, elles ressemblent, elles ont de petites tailles, elles ont des formes de filaments, de coques. On ne peut pas les distinguer à l'œil nu. Par contre, lorsqu'on regarde les mécanismes moléculaires, comme le mécanisme qui permet ce qu'on appelle la réplication de l'ADN, qui permet à partir d'une molécule d'ADN d'en avoir deux pour que dans les deux cellules filles, on ait le même matériel génétique, le mécanisme de synthèse des protéines, ces fameux les ribosomes dont j'ai parlé tout à l'heure, tous les mécanismes, disons, qui permettent aux gènes de s'exprimer, de se reproduire, etc., ces mécanismes-là sont beaucoup plus proches chez les archées et chez les eucaryotes. Et ça, c'est vraiment très, très frappant. Alors là encore, il y a des écoles différentes parmi les évolutionnistes pour interpréter ça. Donc ça, ça a une conséquence très nette, c'est que lorsqu'on étudie, par exemple, au laboratoire, ces microbes de l'enfer, très souvent, on tombe sur des protéines qui ressemblent beaucoup à des protéines humaines, et parfois, des protéines humaines dont on ne connaît rien, on ne connaît pas leur rôle. Par exemple, là, actuellement, dans notre laboratoire à Orsay, on travaille sur deux protéines qui sont conservées chez ces microbes de l'enfer et chez l'homme. En les étudiant chez les microbes de l'enfer, on s'est aperçu que l'une d'entre elles est certainement très importante pour la stabilité du génome, donc doit jouer un rôle très important dans le maintien, dans l'apparition de cancer ou autre. Or, personne dans le monde ne l'étudie chez l'homme, parce que jusqu'à présent, elle fait partie de ces protéines inconnues, on sait qu'elles sont là, personne ne s'y intéresse. Et là, nous, en travaillant sur ces microbes de l'enfer, on s'est aperçu qu'elles devaient être très importantes. Donc on essaie d'alerter la communauté internationale maintenant, en publiant les articles pour leur dire « Attention, là c'est une protéine vraiment sur laquelle il va falloir travailler ». Ça, c'est quelque chose de vraiment très excitant.
Et donc tout l'intérêt de la recherche fondamentale.
Oui, voilà, ça c'est vraiment essentiel. Alors d'autant plus intéressant que, comme je l'ai dit par ailleurs, donc, on a vu tout à l'heure que pour arriver à tenir le coup à ces températures très élevées, les molécules ont dû s'adapter chez ces microbes de l'enfer, et en particulier leurs protéines se sont adaptées pour fonctionner à très haute température. Et du coup, elles deviennent rigides à basse température, on en a parlé, et c'est pour ça que ça ne marche plus, ça gèle à 90 degrés.
Mais du coup, elles sont plus stabilisées.
Du coup, mais comme elles deviennent rigides, elles sont plus faciles, ce qu'on appelle à cristalliser, à analyser, par les laboratoires qui font ce qu'on appelle diffraction aux rayons X pour étudier la structure de ces protéines. Et donc, très souvent, c'est très difficile d'étudier la structure d'une protéine humaine. Ça va être beaucoup plus facile d'étudier la structure d'une protéine apparentée chez un microbe de l'enfer. Et ensuite, à partir de la structure qu'on aura obtenue grâce à l'hyperthermophile, à l'archée, on pourra modéliser la protéine humaine. Et ça, c'est quelque chose qui se fait maintenant couramment dans beaucoup de laboratoires dans le monde. Beaucoup d'équipes travaillant sur la biochimie des protéines s'intéressent à ces protéines d'hyperthermophile.
Il nous faudrait une deuxième émission pour en parler beaucoup plus. Pour terminer, puisque malheureusement nous devons terminer cette émission, nous avons tout au long de cette émission parlé des hyperthermophiles. Est-ce qu'il existe des hypothermophiles ?
Des hypothermophiles, oui. Bien sûr, il existe ce qu'on en appelle des psychrophiles, en fait. Ce sont des micro-organismes qui vivent, par exemple, dans les vallées froides de l'Antarctique, dans les glaciers. On en connaît beaucoup et ils sont très intéressants. Il y a pas mal d'équipes de recherche qui s'y intéressent, d'une part pour étudier les mécanismes d'adaptation de leurs molécules, exactement comme pour les hyperthermophiles, comment elles font pour s'adapter, pour fonctionner optimalement à ces températures. Également pour les aspects biotechnologiques, certaines enzymes sont intéressantes par rapport à ça. Personnellement, je m'intéresse plus aux hyperthermophiles parce que, disons, ces psychrophiles, ce qui est frappant, c'est qu'on en trouve aussi bien chez les bactéries que chez les archées, que chez les eucaryotes. Donc tous les êtres vivants ont réussi à s'adapter à ces conditions sans trop de problèmes. Alors que les hyperthermophiles, on l'a vu, ce ne sont que des archées au-delà de entre 95 et 110. Entre 60 et 110, ce ne sont que des bactéries ou des archées. Les eucaryotes, donc nous, et tous les champignons, les algues, on a aucun eucaryote n'a réussi à vivre au-delà de 60 degrés. Donc on voit que là, on a des questions très intéressantes sur le plan de l'évolution. On a rapidement abordé la question de l'origine de la vie à haute température ou pas. Bon, personnellement, ce qui me branche le plus au niveau scientifique, c'est l'évolution, l'étude, l'histoire des êtres vivants. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'ai un petit faible plutôt pour le côté haute température que basse température, mais c'est très subjectif.
Et nous renvoyons bien sûr nos auditeurs au livre qui nous a servi à faire cette émission, Les microbes de l'enfer, publié aux éditions Belin, collection pour la science en 2007. Merci Patrick Porter de nous avoir rendu visite. Vous repartez peut-être à l'Institut Pasteur,
voilà,
retravailler sur les hyperthermophiles.
Tout à fait.
Eh bien, merci beaucoup. Et j'invite bien sûr nos auditeurs à télécharger les autres émissions en rapport de près ou de loin avec cette émission, notamment l'émission avec Claude Combe sur Darwin, dessine-moi les hommes. Merci beaucoup une nouvelle fois Patrick Porter et peut-être à une prochaine fois pour la publication d'un prochain livre.
J'espère. À bientôt. Merci.